When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Je peux faire un roller coaster.
Alors, soit élastique.
Ah, peut-être.
Ok. Je fais un down. Ok, vous êtes pas prêtes.
Quelle heure est-il?
Ah, faut dire maintenant.
Mesdames et messieurs, bonsoir.
Facile, 4 quarts.
Un quart qu'à 6.
4 jours et un micro.
Un quart citron.
Un quart en bas.
On va pas du tout baser autour de l'apéro.
Je suis en train de te remettre en question.
Tu veux qu'on prenne 5 minutes?
Je pense qu'on est plus à 5 minutes près. Hein.
Bonsoir et bienvenue dans 4 quarts d'heure, l'émission qui durait
4 quarts d'heure.
On est survolté aujourd'hui puisque...
Surtout moi.
Il n'y a que toi qui es survolté.
Moi, je suis survolté parce que je suis encore sur mon petit nuage puisque samedi dernier, nous avons enregistré notre premier podcast en live et c'était super. On était à la Gaîté Lyrique au Paris Podcast Festival. Donc encore merci à eux de nous avoir accueillis et merci à vous. Vous
merci.
Avez été 300. La salle était pleine à craquer.
C'était
vous
trop
avez
fou.
Rigolé, ouais, vous avez pleuré, vous avez boué. Vous avez été...
Boué
ouais, ils ont fait... Quand Kalindi a fait une mauvaise vanne.
Tu te souviens de ça?
Je suis pas sûre qu'on puisse rester longtemps sur l'humiliation de Kalindi.
mais moi, en tout cas, ça m'a survolté vraiment cette expérience de la scène. Ça m'a fait trop plaisir et surtout de me rendre compte aussi que les gens étaient là et qu'ils aient pris du temps dans leur week-end
moi,
pour venir nous
ouf.
Écouter pendant une heure assis sur leur petit siège et tout. Ça m'a fait trop plaisir et franchement j'espère que là on n'a pas encore enregistré le live du 31 à l'Apollo, mais j'espère qu'on aura un peu plus le temps
de discuter
avec
ouais.
les gens après parce
bien
que
bien sûr. Non mais en plus peut-être on pourra aller boire des binges, on n'en sait rien.
Ouais, on n'en sait rien, on sait pas ce qu'on va faire après, mais certainement
venez.
Je pense que à l'heure où ce podcast sort on sera déjà passé. Mais ou alors c'est peut-être le jour où on passe.
Oui, je pense que c'est le jour
parce
même.
Qu'on enregistre le 31 et je pense que cet épisode va sortir le 31.
C'était trop bien d'avoir les gens qui rient en direct.
Ah
ouais.
Oui, c'était un plaisir.
Ça, c'était fou. C'est un peu une drogue, je comprends les stand-upers en fait.
Tu vois? Et en fait, on est marrant.
Non, mais ça te porte de folie, ouais.
Ouais, ouais, et puis ça te donne la confiance et tout. Alors après, c'est là que j'imagine tu commences à bider quand tu prends trop la conf et que tu racontes n'importe quoi et personne rigole. Mais
comme
mais
moi non. hier soir, tu veux dire?
Ah ouais, merde, t'as bidé.
C'est pas ton down?
C'est pas... Moi, je ferai un mini down tout à l'heure, si vous voulez.
Mais j'ai complètement oublié de présenter mes acolytes. Kalindi Rumpfer.
Ouais.
Camille Laurent.
Ouais.
Louise Petrouchka.
Ouais.
Et je suis Alix Martino.
Ouais.
Bravo.
Donc, pour vous rappeler un petit peu le concept de cette émission, tout comme toutes les semaines, on vous raconte nos ups et nos downs de la semaine. On commence par un down pour finir par un up. Donc aujourd'hui, qui va nous déprimer? C'est Camille Lolo, c'est
Allez.
Camille Laurente.
Finissons-en. Donc mini down, ma scène d'hier. Ouais, non mais j'avais pas prévu d'en parler, mais je vous raconte vite fait. C'était assez terrible. Hein. C'était dans un cadre pas adapté. Tu vois, au fond d'un bar où, genre derrière la scène, il y a rien. Enfin, il y a les gens qui passent au bar et enfin. Le cadre n'allait pas. Les gens étaient trop bien installés. Tu sais, en stand-up, il faut pas que les gens soient trop bien installés.
Ah.
Faut qu'ils soient un peu...
Ça leur donne la conf à eux aussi, quoi.
Ouais, ils sont trop... Faut pas qu'ils soient trop détendus. Vaut mieux qu'ils soient sur des chaises un peu dures pour rester alerte, tu vois.
Comme au Paname.
S'ils sont trop avachis... Mais exactement, comme au Paname, les bancs sont très raides. c'est pas un hasard. S'ils sont trop avachis... Puis là, c'était un bar assez chic. Donc, tu vois, dans une ambiance vraiment...
Lounge.
Lounge. Et en fait...
ça va pas au stand-up.
Faut pas trop se lounger.
C'est plus l'ambiance à l'américaine. Aux États-Unis, on en parlait tout à l'heure, au Fat Black Pussycat et les autres comedy clubs, t'es super bien installé, t'es dans des gros trucs moelleux, tu peux boire des petits cocktails.
Bah, surtout,
c'est
t'as
un peu chic, en fait.
Ouais,
tu
t'as
vois
des serveurs qui viennent te parler comme ça.
Ouais.
Qu'est-ce que vous voulez boire?
Tu peux manger des corbeilles de légumes crus.
Le rêve.
Ah, non, mais, je sais pas.
Tu veux un peu de ma courgette crue?
Non, bah moi j'avais pris des chicken wings frites. Donc,
ah,
voilà.
Mais sachez que l'option légumes crus existe. Mais oui, mais là, c'est un vrai comedy club. Je pense que les gens qui vont dans le comedy club à New York, ils ont la culture du comedy club aussi. Enfin, le truc, je sais pas combien tu mets de gens dans ce comedy club, mais là, on n'était pas beaucoup. Enfin, et donc, j'ai pas bidé, mais j'ai été très mauvaise. C'était vraiment pas une bonne performance. Je m'en foutais un peu. Comment dire? Ça m'a pas atteinte, tu vois. Je suis pas rentrée chez moi.
T'avais mis ton armure?
Ouais, j'étais juste là. Bon, ben, après celle-là, une autre. Voilà, donc je suis rentrée chez moi. Bon, ma foi, ça allait. Moi, j'étais avec des copains humoristes aussi. Voilà, on était tous dans la même galère. Donc, et je suis rentrée chez moi, me confronter à mon down, qui est que je n'ai pas de chambre. J'ai 34 balais. On va dire que j'ai 35 parce que j'essaie de m'habituer pour l'année prochaine. J'ai donc 35 ans déjà. Et toujours pas de pièces, ni de cloisons. Et c'est mon down, quoi.
Ouais, je comprends.
Parce qu'en fait, tu vois, c'est relié à, au reste de ma vie, quoi. C'est une situation inextricable puisque j'ai le sentiment que je suis un peu coincée à Paris. Non seulement parce que mes activités s'y déroulent majoritairement, mais aussi parce que j'aime habiter ici et ça me tue. Ouais. Ça me fout en l'air. Vous connaissez ma relation toxique avec Paris. C'est l'homme que j'essaie de quitter depuis des années et qui me rattrape toujours. Et parce que j'ai une espèce de tendresse qui vient d'on ne sait pas de vous. Bah, il y a plein de côtés sympas à Paris, mais juste, je peux pas me loger décemment.
Genre
là.
Personne, hein.
Personne. Bah, enfin, si, les gens riches.
Gagnent, oui, voilà, extrêmement bien leur vie. Mais en vrai, le nombre de personnes qui gagnent extrêmement bien leur vie à Paname, je suis pas sûre qu'il soit très élevé, quoi.
Bah, si, plus que dans d'autres villes. Laisse tomber comment il y a des riches à Paname. On les voit pas, juste. C'est un Paris qu'on voit pas.
De l'autre côté,
on n'habite pas, on n'habite pas chez eux, c'est tout.
Non, mais il y en a des riches dans mon quartier, hein, t'inquiète.
Il y en a des appartements.
Ah, bah oui, bah, toi dans ton quartier, oui. Moi, dans mon quartier, vraiment pas. Donc...
Ouais, c'est ça. Non, et pourtant, moi, j'habite encore dans un quartier qui, il n'y a pas longtemps, était un quartier populaire, tu vois.
Oui, oui, oui.
Mais les riches ont vite fait d'arriver dans les quartiers populaires pour les richiser, donc...
Enfin, ça a toujours été un peu moitié-moitié, 18e aussi, quoi.
Bah, avant, j'habitais plus... moi, aujourd'hui, je suis vers Montmartre. Avant, j'étais plus, pour les Parisiens qui connaissent, à Porte de Clignancourt. C'est sûr que c'est tout de suite un peu plus populaire, quoi.
Bon, moi, je suis dans un quartier que j'adore, hein, mais juste là, je suis au max de ce que je peux payer en loyer. Je me dis, mais... En fait, c'est ça...
Ah ça, je rejoins ton down très fort là-dessus.
Soit va falloir que je triple mon salaire pour un jour espérer me payer une chambre, soit faut que je déménage. C'est mon éternel fantasme de Marseille qui revient chaque année en été. Et ensuite, je rentre à Paris et comme dirait ma petite sœur, je me fais re-aspirer. Ou toi aussi, t'as dit ça l'autre fois, que t'avais été aspirée par le vortex parisien en rentrant de vacances, tu vois. Quand j'étais au Maroc, j'avais appelé ma sœur qui, là, vit sa meilleure vie de hippie sur une plage au Costa Rica. Et donc, j'étais en voyage au Maroc, c'était la fin de mon voyage. Je lui dis, putain, mais je vais trop être food vlogger, c'est ça ma nouvelle vie. Elle était là, ouais, grave, peace and love. Et elle me dit, mais fais gaffe, parce que tu vas rentrer à Paris, tu vas te faire aspirer par le vortex.
Et
donc,
oui.
Prends et ta décision, prends ton billet d'avion et fais food vlogger. Tu vois, et moi j'étais là, mais non, t'inquiète, de toute façon, faut bien que je rentre, j'ai 4 quarts d'heure et j'ai le stand-up et tout. Et là, du coup, bah oui, voilà, je me suis fait réaspirer par le stand-up puisque j'ai décidé de progresser dans cette discipline au lieu d'abandonner.
Ce qui reste une décision qui est pas food vlogger, mais qui est autre chose,
oui, mais qui du
qui
coup
qui permet moins le Costa Rica
à ça,
voilà, me condamne à errer dans la capitale et à pas avoir de chambre d'adulte.
Ouais. Mais ça faisait partie de mon down de la dernière fois où après j'ai fondu en larmes et du coup j'ai arrêté. Mais c'est vrai qu'il y a...
Tu veux compléter?
Je veux bien finir, aller avec toi dans ce sens. Et du coup, oui, je vais dans ton sens parce que c'est la réflexion que je me suis faite en rentrant de vacances aussi, c'était la violence de cette ville en fait.
Oh là
et
là.
Pas que dans... Enfin, tu vois, genre, c'est le quotidien, il y a plein de gens et tout. Bon, d'accord. Mais en fait, la crise du logement is real. Et franchement, c'est... un truc de ouf, les annonces des logements. Quand tu gagnes notre vie et notre salaire même salaire, mais on gagne pas mal notre vie, tu vois. Et pourtant, la ville te fait te dire bah, « je suis qu'une merde, en fait. Je mérite de vivre dans un 19 mètres carrés. »
C'est ça, c'est dur pour l'ego, en fait. Ouais.
Et, mais c'est même pas tant l'ego, je trouve. Moi, je suis en mode « mais à quel moment ?»
Pour la santé mentale.
Mais oui, c'est ça, à quel moment on va faire quelque chose pour que les gens ils vivent décemment dans les villes dans lesquelles on vit. En fait, enfin, je comprends même pas pourquoi il y a des moments où ils ont réfléchi les architectes à construire des 19 mètres carrés et se dire les gens vont vivre ici. Genre même les étudiants, tu vois, genre qui n'ont pas moyen de vivre correctement à Paname, puisque en fait ils peuvent pas se payer un 19 mètres carrés si c'est ce qu'on nous propose à nous alors qu'on gagne notre vie, tu vois.
Ouais. Je trouve que ça fait 10 ans qu'on bosse.
Mais je trouve ça... ouais, je trouve ça trop violent et je me suis vraiment fait la réflexion la dernière fois. J'étais en mode mais tu sais, genre, il y a le truc de ouais, les Parisiens qui partent en province et tout. Bon, alors déjà, je pense que la moitié des Parisiens sont logiquement pas Parisiens, puisque en fait, ils sont venus à Paris parce qu'il y avait du travail et après, ils ont fait je vais faire un burn-out, donc je me casse et je repars de là d'où je viens ou alors dans une nouvelle ville, tu vois. Mais en fait, c'est que du coup, derrière, il y a le truc de ouais, les Parisiens qui redébarquent en province, bah en fait, forcément, ils ont les moyens de se payer des logements surdescend, puisque à Paris, leur loyer c'était zinzin, tu vois. Mmh. Et à chaque fois, ça, je trouve ça vraiment illogique. Et je suis
non, mais Paris, pour moi, c'est vraiment ce que tu as dit, c'est vraiment un ex toxique. C'est quelqu'un qui veut pas de toi et pourtant, tu restes alors qu'il te fait comprendre vraiment. Ne reste pas là, je suis vraiment pas fait pour toi. Mmh. Mais toi, t'es là. Si, si, allez.
Si, les toits sont jolis.
Quand tu vois les toits, hein, parce que ouais. Quand t'es au premier étage, ouais. Ça marche pas.
Moi,
ça.
Je n'ai plus aucun amour pour Paris actuellement.
C'est vrai.
En fait, je me disais ça l'autre jour. Je vais me promener à Montmartre avec mon mec, là. Et en fait, je me disais. Moi, je suis née ici. J'ai grandi ici. Plus rien ne m'impressionne. Ouais. Vraiment, je passe devant tout et je suis là. Je m'en fous. Et les seuls trucs qui m'intéressent, c'est les immeubles de riches où je me dis, je pourrais jamais me les payer.
Ouais, ouais.
Bah, au marché,
et c'est le seul truc
aussi.
Qui m'impressionne. Bah ouais, en plus, dimanche avec ma fille, on va dans Montmartre. On veut aller boire un coup à la fête des vendanges. On n'a jamais trouvé la fête des vendanges. Et vraiment, tout le monde était là avec son petit verre de vin. Et on était là, mais where is it? Where is it? Puisque c'était que des Américains. Et en fait, ils étaient là, but it's here. Et en fait, à chaque fois, et il n'y avait pas. Donc, on n'a toujours pas compris où était la fête des vendanges. On est reparti sobre.
Rien de plus triste.
Rien de plus triste. Et on passait devant les immeubles. Et on était là, oh, t'imagines si on vivait là. Et c'est le seul truc qui m'intéresse. C'est les trucs que je peux pas me payer. Sinon, ouais. Je passe devant les trucs et je suis là. Je m'en bats les couilles. Je vais aller au soleil. Plus rien. De m'impressionner dans cette ville. Je crois que ça fait 31 ans, ça fera 31 ans bientôt que je suis sur cette terre et que je suis à Paris. Et je crois que la rupture est consommée. Moi, je crois que c'est vraiment pour bientôt que c'est ciao. Même si Paris restera ma ville de cœur. Je suis née ici. Tout le monde, tous mes amis sont là quasiment. Quelques-uns ont eu l'intelligence de partir. Mais sinon, ma vie est là. Mais je pense que là, il est temps de voir autre chose. Parce qu'en fait, quand tu ne sais plus apprécier aucun des charmes qui t'entourent, c'est que t'as fait le tour et qu'il faut partir pour mieux revenir, tu vois, pour mieux réapprécier la beauté de l'endroit où tu vis et qui est pourtant si fantastique en plus.
Ah putain, mais partir où, quoi? C'est ça.
Bah, le monde est vaste, hein.
Ouais, mais le monde faire. Est... Ouais, c'est terrible, c'est vertigineux. T'en es où dans ta recherche immobilière? Parce que là, toi, t'essaies de...
Non, là, j'ai abandonné, j'en peux plus. Voilà, ça m'a sauvé.
Mais moi, on a les mêmes cycles à chaque fois, en fait, j'ai l'impression.
Mais en fait, non, quand sur ce logis, il y a que des arnaques. Il y a que des arnaques ou des gens qui te répondent pas, donc au bout d'un moment, ou des trucs. Et puis, tu sais, tu pousses toujours au début. Tu mets vraiment ce que tu peux
encore accepter.
Et après tu augmentes en disant bon bah tant pis, j'irai plus au resto, bon bah tant pis, je mangerai plus, tant pis, j'aurai plus de vie. Et tu regardes des apparts à 2000 euros que tu peux pas du tout te payer, et même à 2000 balles, les apparts ils font 45 mètres carrés, n'importe quoi, c'est de la folie pure.
Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de chercher un appart, voilà, j'ai complètement arrêté parce que c'était trop violent de se prendre des refus, des non-réponses, des visites dans des trucs insalubres. C'est trop, à un moment c'est trop, et je me dis, moi je suis en ce moment dans la gratitude. Alors je réfléchis à ce que j'ai déjà, et je suis là, ah super, moi j'ai une chambre.
Mais oui, c'est ça, mais moi je suis...
J'ai une chambre, j'ai un rayon de soleil qui passe entre 11h et 13h, et je le vois, et je le regarde comme ça sur mon étagère, et je suis là, ah, qu'il est beau ce rayon de soleil, que je ne verrai plus jamais après, parce que je suis au premier étage, et que je n'ai pas de vue. Mais je profite du fait que j'ai un appartement sur cours, je n'entends rien, je dors comme un bébé. Quoi d'autre? Mon appart est grand, il fait 30 mètres carrés, je suis ravie.
Tu te rends compte qu'on en vient à se dire mon appart est grand parce qu'il fait 30 mètres carrés. Oui. Ça me dépasse combien nos exigences sont terriblement basses. C'est parce terrible. Que cette ville nous a obligés à avoir des ambitions de merde.
Ouais. C'est vraiment être sur une appli de rencontre de merde, hein, mais bon. Et tu te contentes d'avoir un gars super boring. Mais
la
bon.
Dernière fois, j'étais sur, pareil, je cherche un appart en ce moment, comme depuis 800 ans.
Comme tout le monde dans
voilà.
cette ville.
Et comme tout le monde parmi nous, apparemment. Et je vois un appart et c'était genre studio avec vue magnifique. Et vraiment, du coup, je suis en mode attendez, vous êtes en train de me vendre la vue. Et donc, vraiment, il y avait trois photos. Donc, deux photos pérave du pauvre studio de merde. Et donc, la deuxième photo, c'était la vue du coucher de soleil. Je suis là, vous foutez de notre gueule. T'es en train de me dire que je vais payer 900 euros pour voir un coucher de soleil tous les soirs. Mais en fait, je vais.
Ah, moi, je le paye. Hein.
Ouais, franchement, ça peut l'évaluer. Ouais.
Non, mais je vais mais sortir au de bout chez de trois WAM, jours, t'en bats les couilles.
C'est mieux qu'un studio sans coucher de soleil.
Ouais, c'est clair. Parce que non. Moi, j'ai pas de coucher de soleil.
Bah, moi, je préfère.
Parfois, j'oublie que le soleil se couche tellement il fait nuit dans mon appart.
Ouais, ça, c'est terrible.
Je préfère pour l'instant rester dans ma coloc et me dire, en fait, le jour où je partirai parce que j'ai trouvé un appart cool. Mais encore une fois, ouais. Faut-il qu'il y ait des apparts cool dans mes prix, tu vois.
Bien sûr. Non, mais tu sais, moi, un jour, pour dire combien les gens sont des menteurs, je vois une annonce il y a 4 ans quand je cherchais un appart. Appartement à Montmartre. Alors moi j'y vais. C'est marrant, c'était à Barbès. Alors moi, quelqu'un, pour les Parisiens ça vous parlera, c'est vraiment pas le même endroit en fait.
C'est au pied de Barbès, c'est au pied de Montmartre, mais c'est pas la même endroit quoi.
C'est vraiment le pied de Montmartre que tu vois même pas Montmartre en fait. Voilà, c'était à côté du commissariat de la Goutte d'Or, où en fait t'as 50 gars en bas de chez toi qui te menacent dès que tu veux rentrer, donc compliqué. Et j'étais là, vous êtes vraiment des énormes mythos. Voilà, donc Ralph.
Ah ouais, ouais. Ouais. Mais bon, voilà, si vous êtes comme moi et que moi j'ai décidé là.
J'adore! Mets-nous de la gratitude dans ce down, Alix.
Non, mais j'essaie de. En fait, récemment, je me suis dit. Vas-y, j'essaye un nouveau truc, c'est j'arrête de lutter.
Ah oui, oui.
Et du coup, je laisse tout me rouler dessus. Et.
Énergie du désespoir.
Je pensais pas à ce genre de. Session de lutte.
Et bon, voilà, tu vois, je laisse les mecs en bas de chez moi me harceler le matin quand je sors. Je les laisse et je prends les compliments. Merci. Merci.
Ah, putain, mais
alerte,
où on en est ?
Alerte.
Venez tout à Marseille avec moi, s'il vous plaît.
Oh, bah, Marseille, pas sûr que ça change beaucoup.
Mais se faire harceler avec l'accent du sud, c'est quand même une autre
ça,
gueule.
C'est bien plus sympa. Mais non, voilà, j'essaie de me laisser.
C'est l'état d'esprit que je recherche.
Le tsunami. De laisser le tsunami me noyer.
Non, mais tu vois, moi, j'ai vécu 4 ans dans 14 mètres carrés. Bon, parce que moi aussi, je suis all about la satisfaction et la gratitude, tu vois. Mm. Quand j'ai dû passer plusieurs années dans 14 mètres carrés, bon, bah, je me disais, c'est un sacrifice, je sais pourquoi je le fais. En vrai, je regrette pas de l'avoir fait, tu vois. Ça a payé quelque part.
Ah, on serait pas là aujourd'hui si t'avais pas vécu dans 14 mètres carrés, j'imagine.
Bah,
tu serais pas monté à Paris.
Ah bah non, voilà, de toute façon, c'est pas comme si j'avais trop le choix quand je suis revenue à Paris, puisque moi aussi, je m'étais barrée à la campagne après 2 ans de Paris, j'étais retournée dans ma campagne. Bon, après, je me suis fait chier, je suis revenue à Paris, tu vois. Et j'avais pas de travail, donc oui, j'ai pris le plus petit studio. Mais donc, ok, on se contente de ce qu'on a, mais jusqu'à quand, putain ouais. Là, j'ai dit cet été, c'est mon dernier hiver parisien. Et en vrai, là, je me vois faire et j'ai l'impression que je vais jamais partir. C'est...
Ah bah si on veut partir, il faut vraiment pas se laisser respirer parce que c'est vraiment en effet un vortex Paris et les rendez-vous et les machins et les trucs, faut vraiment, c'est comme quand t'arrêtes de boire, il faut dire j'arrête de boire. Il faut pas dire c'est le dernier verre, tu vois, parce que chacun sa méthode, mais n'empêche que moi, pour avoir dit bon je bois que le week-end et je buvais que le week-end, maintenant je bois en semaine en me disant mais ça rattrape le week-end, sauf que le week-end j'ai oublié que j'ai bu en semaine, tu vois, et du coup en fait je bois toutes les semaines.
Aïe aïe.
Ah, je comprends.
Voilà. Voilà. Mais non, mais je bois moins quand même qu'avant. Mais bref, merci beaucoup Camille pour ce down.
Bah, de rien.
Down partagé, non, apparemment.
Ouais, ouais, c'était un down à 4 finalement.
Un
four downer.
Un four downer. Qui a un up pour essayer de nous remonter le moral?
Loulou. Ouais, j'ai un up. Mon up est une série merveilleuse que j'ai évoquée dans un des épisodes précédents. J'ai commencé à regarder Lost. Oui, la série qui date
je m'attendais pas à ça,
de 2004 ou 2005, ou je ne sais plus quand c'était exactement.
La meilleure série qui ait jamais été faite.
Ah ouais, carrément.
Non. si.
Ah, non, et si à la fois.
Moi, j'ai jamais regardé, mais tout le monde dit que la fin est trop décevante et tout.
Alors,
mais
tout
on
monde
s'en
dit...
fout de la fin.
Ouais, tout le monde dit que la fin est trop décevante. Alors, pour l'instant, moi, j'en suis pas là. Je suis à la saison. Début de la saison 5, je crois.
Waouh!
Ça commence à devenir un peu compliqué à suivre.
Alors, ouais, c'est le début de la fin. Enfin, en fait, faut s'arrêter à la saison 4-5.
Mais je t'avoue que, en fait, alors moi, j'avais des a priori sur Lost. Puisque bah, j'ai jamais regardé Lost. Donc, en fait, dans ma tête, c'est juste des gars perdus sur une île. Ce qui est le cas au début, je vais pas vous mentir. Mais je m'étais dit, ça fait trop longtemps que c'est sorti, à quoi bon regarder cette série? Et en fait, il s'avère que j'ai un mec qui adore cette série, qui l'a regardé au moins 3 fois, je pense. Et il m'a dit, mais si tu veux, on la re-regarde ensemble. Et j'étais là, bon, allez. Il a tous les DVD et tout. Bon, bref. Et donc, du coup, on recommence à la regarder. Je crois qu'en plus, elle est sur Disney+, il me semble.
Quoi?
Elle est disponible.
L'hiver d'Alix.
Il ne sera pas le même.
Il me semble qu'on la regarde sur Disney+. Ouais.
Non, parce que moi, quand je re-regarde Lost, ça m'est arrivé pendant le confinement, je deviens folle dingo. Genre vraiment, je deviens... Bah, en fait, je ne peux plus m'arrêter. Je fais vraiment des nuits blanches pour regarder des épisodes. C'est une des séries les plus addictives qui existent.
J'avoue. C'est la vérité. J'ai passé 3 semaines en Espagne, je vous l'ai déjà dit, 28 fois. Et ben, tous les soirs... On a regardé que Lost parce que à chaque fois mon gars était là. Tu veux regarder autre chose? Si tu veux, on peut regarder ça, ça, ça. J'étais là. Non, on continue Lost. Je veux la suite.
Et encore, t'as eu de la chance de pouvoir profiter de tes vacances et d'aller à la plage. Moi, si tu me mets 3 semaines sans rien, sans but, tu vois, juste en vacances avec Lost, moi je vais pas à la plage. Je regarde Lost, tu vois.
Tu regardes Lost,
là, je prends le soleil
après
via Lost, tu vois. Ils sont sur une plage, donc pas besoin d'y aller.
pas du tout besoin d'y aller, c'est sûr. Donc, alors, pour les personnes qui n'auraient jamais vu Lost et qui ne savent pas de quoi on parle, c'est une série se passe sur une île déserte. En fait, c'est des gens qui comment on dit ?
Se sont écrasés.
Qui s'écrasent sur une île déserte, leur avion a un accident, bref, et donc du coup, c'est un peu l'histoire de leur survie sur cette île, qui, de prime abord, a déjà l'air chelou, en fait, vraiment, épisode 1, t'es en mode, bon, c'est une île bizarre, il y a l'air d'avoir des trucs louches, et au fur et à mesure, bah voilà, tu suis un peu tous les personnages, leur background, parce qu'il y a beaucoup de flashbacks de qui ils sont avant d'être dans ce crash d'avion.
C'est ça que j'adore dans cette série, c'est vraiment l'attention portée aux personnages, même secondaires, parce que t'as forcément le trio de tête, tu vois,
ouais.
Mais tous les personnages secondaires ont une super backstory, et chaque épisode est consacré à un personnage, et donc parfois, c'est vraiment des personnages, tu les as pas entendu parler depuis le début, tu vois, et c'est vraiment super.
Ouais. Et du coup, donc moi, je commence à regarder ça avec un peu des a priori. Bon, bah, c'est une vieille série, donc probablement ça a pris un petit coup de pelle dans la gueule en termes de tout en fait, sexisme, racisme et compagnie. Ce qui est un peu le cas, on va pas se mentir. Mais les persos, je pense, ils pourraient être écrits aujourd'hui. Et en fait, ça resterait des. En fait, c'est juste le perso qui est raciste. Bah, il est Sistra en fait. Donc en fait, ça resterait un perso Sistra, même s'il était écrit aujourd'hui. Peut-être qu'il s'en prendrait plus dans la gueule à chaque fois qu'il fait des réflexions racistes, je pense. Ça serait ça la diff avec aujourd'hui. Mais du coup, il y a quand même des persos. Sur la première saison, j'étais un peu perplexita, tu vois. Je faisais des blagues à chaque fois, je rigolais et tout. Je prédisais ce qui allait se passer parce qu'il y a des scènes, t'es en mode, bon, on sait 8 milliards de fois ce qui va se passer avant que ça se passe. Mais, je sais pas, il y a un petit charme, il y a un petit truc où j'étais là, bon, allez, c'est pop culture, tu vois. Moi, j'ai plein de potes à moi qui ont regardé cette série. Je me disais, c'est cool si j'ai les refs. Et en fait, première saison...
Not alone.
Première saison, je me dis, bon, c'était bien. C'était pas la folle, tu vois. Genre, je me suis pas dit, putain, série incroyable de l'univers. Après, je regarde la saison 2. Et là, c'était bon, c'était parti. Fallait pas chercher. En fait, à chaque fois qu'il y avait la fin d'un épisode, j'étais là, comment les gens ont regardé cette série avec une sortie toutes les semaines?
Ouais.
Ça devait rendre zinzin. Et mon gars, il me dit, mais j'étais sur les forums, en fait. Tu regardes les forums, tu regardes tous les trucs que
non,
les gens ont
dit. Non, mais c'est un peu le
dit,
début aussi de la critique. Exactement. Sérielle, en fait, ouais. Sur tous les blogs et tout, à l'époque. C'était un vrai truc. Et moi, je me souviens, on le regardait la première fois que j'ai regardé Lost, c'était pas à la télé parce que j'avais pas le droit, mais c'était avec mon petit frère. On se posait devant l'ordi, devant des sites de streaming complètement illégaux, et notre jeu, en fait, c'était d'en parler pendant des heures pour pouvoir prédire ce qui allait se passer et tout. Et c'était notre jeu préféré, quoi.
Eh bah, ben, c'est aussi un de mes jeux préférés, puisque vraiment, à chaque fin d'épisode, ou même pendant l'épisode, je suis en mode, non, mais c'est le truc qui fait ça. Non, mais là, il y a machin, il va faire ça, et en fait, il va se passer ça. Et là, je pense que c'est ce machin qui est en train de se passer. Bon, j'ai pas envie de vous spoiler si vous avez pas vu Lost, et à la fois, bon, ça fait 20 ans, donc voilà. Mais, en... est-ce que je peux dire qu'ils sont pas tout seuls sur l'île?
Trop tard.
Bah non,
on sent... Après, ça fait vraiment 20 ans.
Ouais.
Ouais, voilà, on est d'accord.
Il y a un peu...
Il y a pseudo-prescription. Je vais pas tout dire, mais bon, ils sont pas tout seuls sur l'île. Bon,
en plus, j'ai dit « we are not alone ».
Voilà. Et du coup, à partir du moment où tu commences à capter qu'ils sont pas seuls et qu'il y a les autres qui commencent à arriver, là, il commence vraiment à se passer des trucs cool parce qu'il y a ce truc de « qui sont les gentils, qui sont les méchants ?» Et parce qu'en fait, ils sont, c'est vraiment dans un truc de bon, bah, eux, ils sont crashés, ils essayent de survivre et tout. Et il y a des gens qui leur font des crasses et ils sont en mode, bah, on n'a rien fait, pourtant, on vous a pas attaqué. À la fois, ils captent qu'il y a peut-être des gens infiltrés chez eux, donc ils commencent à devenir parano.
Voilà, t'en dis trop.
Ok. et du coup, il y a vraiment cette, comment on dit? Cette complexité de savoir qui est le gentil, qui est le méchant, y a-t-il vraiment des gentils, des méchants ? Ça, c'est l'histoire de plein de séries, mais je trouve qu'elle est, est vraiment bien foutue dans celle-ci. Il y a vraiment des persos où tu te dis, ils vont pas bien dans leur tête. Et à la fois, ils ont des stories trop cool. Enfin, genre, en effet, moi, par exemple, John Locke, qui est un des premiers gros persos à être développé et tout, au début, j'étais un peu en mode... Il est weirdo et tout. Et en fait, plus tu connais son histoire, plus t'es en mode, bon, il est weirdo. Et à la fois, il est grave intéressant comme personnage, tu vois. Sans forcément...
Mais oui, parce que c'est une série aussi qui est grave... qui est grave axée sur la philosophie. Et donc, ça va être des concepts philosophiques qui sont mis dans des situations réelles, tu vois. Mmh. Genre, à quoi ça sert de faire certaines choses dans la vie. Et John Locke, d'ailleurs, bah, c'est un philosophe, c'est le nom d'un philosophe. Ouais. Desmond aussi, c'est le nom d'un philosophe.
Ah, peut-être.
Enfin, il y a plein de références philosophiques dans cette série. C'est passionnant sur ce que c'est que l'être humain, quoi.
Oui, c'est ça. Et en fait, bah oui, ce que c'est de survivre sur une île quand t'es en groupe avec des gens. Enfin, je sais pas, genre la création d'une société avec des nouvelles personnes, c'est toujours un truc qui est intéressant à exploiter, je trouve, dans des histoires et dans des séries. Et du coup, ça devient hyper intéressant. Il y a des persos dont je vais pas vous parler parce qu'ils arrivent tard dans la série et j'ai pas envie de vous spoiler, mais qui sont tellement zinzou et à la fois stylés. Et enfin, j'ai envie de vous en parler pendant 4 heures. Et je me suis fait la réflexion pendant que j'étais en train de regarder Lost. Je me suis dit, franchement, il y aurait Mimi qui ferait des podcasts de débrief de Lost de 3 heures comme elle fait pour House of the Dragon. Je serais en train de les binger à l'heure actuelle, mais tellement fort. Ça
on en avait parlé
génial.
Avec Mimi, mais je crois que c'est déjà fait, tellement fait.
Ouais, mais
notamment aux États-Unis, il y a
des... avoir de la matière.
Ouais, je pense qu'il y a de la matière, et je pense qu'il y a de la matière aussi avec le recul aujourd'hui de regarder cette série. Je pense que c'est différent de la regarder à l'époque, tu vois. J'en sais rien. En tout cas, moi, je sais que c'est vraiment... du coup, j'ai vraiment kiffé et je kiffe mon moment encore, même si là, ça commence à devenir compliqué dans l'espace-temps. mais du coup, ouais, il y a vraiment un truc de... Tu t'attaches au perso. Après, il y a des trucs qui sont un peu chiants, moi, je trouve. Mais après, c'est mon truc perso. C'est genre vraiment les Américains et la religion. Et Jésus, franchement, je n'en peux up. Et j'ai l'impression que dans toutes les séries que je regarde, il y a des trucs liés à ça. Là, je regardais Sex Education, j'étais là, bon.
Mais ça, c'est les
Elle
Anglais.
Elle est trop bien, cette saison, en revanche.
Bah, c'est très américanisé aussi, Sex
Education. Ouais, mais c'est les Anglais qui écrivent Sex Education.
Ouais, ouais. Mais bon, ça reste quand même des trucs, je trouve, très... voilà, tout ce qui est catho, Jésus et tout, j'avoue que des fois, je suis un peu en mode, est-ce qu'on peut parler peut-être d'une autre religion, déjà ? Ça serait un changement, tu vois.
Il y a Saïd.
Quoi ?
Il y a Saïd.
Oui, mais en fait, la manière dont Saïd est traité, je trouve que c'est très...
Non, mais c'est intéressant, tu vois, parce que aussi, la culture américaine, et enfin, tu vois, ils ont littéralement marqué sur leur billet « In God we trust », tu vois.
Mm.
Donc, en fait, c'est important que... Enfin, je trouve ça intéressant sociologiquement de regarder les Américains faire des trucs...
Ah, ça, very interesting, la manière dont ils traitent Saïd, oui. Surtout à l'époque où c'est sorti, en plus, enfin, en vrai, c'est pas très longtemps après 2001 que ça sort
oui,
Lost.
Tout à fait. Ouais.
Donc bon, après, donc il y a forcément plein de trucs Systra, et du coup, t'es un peu en mode bon. Il y a des trucs vraiment un peu gênants, Il y a des trucs que bon, tu comprends dans l'histoire et tout machin. Bon, c'est pas, c'est, je trouve ça moins dérangeant. Mais du coup, voilà, juste pour vous dire que j'adore Lost et que je suis ravie d'avoir commencé à regarder cette série et que je suis ravie de perdre mon temps dedans parce que c'était un peu ma peur. C'était, vas-y, je vais pas commencer une série qui dure 6 saisons.
Ah, il y a que 6 saisons.
Ouais, mais c'est, tu sais, c'est les séries, c'est,
oui,
les séries flux. Donc c'est des épisodes de 50 minutes et il y en a 25, tu vois.
Oh, wow,
ouais. Donc c'est un peu long. Mais je crois qu'il y a des séries, il y a des saisons qui ont moins d'épisodes, il me semble.
Possible.
Peut-être que je me trompe avec une autre série. Bon bref, en tout cas, c'est très bien. Il y a des histoires de persos qui sont assez bien développées et il y a des persos, en fait.
Et surtout, c'est spécifique et, enfin, ça ressemble à des vraies histoires et aussi il y a toujours un côté un peu paranormal, tu vois.
Oui.
Ah est... ouais.
Ouais.
Ouais. Ouais. Ah, ouais. Je savais pas ça.
Ah oui.
Qui est super intéressant et moi qui a fait que Lost m'a terrifiée quand j'ai commencé à la regarder, je pense trop jeune. Mais ouais, c'est une super série.
Et je voulais dire un troisième truc et j'ai oublié. Bon, voilà, c'est une bonne série. Je prends du plaisir à la regarder et c'est le principal.
Bah ouais.
Donc, si jamais vous avez vu Lost et que vous voulez en parler avec Wam, me spoilez pas la saison 5-6, mais sinon, on en parle quand vous voulez. Moi,
non, mais ils sont chiés après. Oui.
Moi, j'ai un nouveau... Enfin, mon podcast, si j'avais un podcast qui débriefait Lost, ça s'appellerait Benny's Theories, parce que c'est le truc à chaque fois qu'il y a un personnage qui s'appelle Ben. Et à chaque fois que j'en parle, j'étais en mode je suis sûre que machin il fait ça et du coup on a trippé avec mon gars et du coup maintenant à chaque fois je dis Benny's Theories, j'ai une théorie sur ce truc et donc voilà, c'est ça sera mon podcast
de débrief de Lost 20 ans après
avec Mimi Hegel, je l'espère, et peut-être Alix Martineau. Je ferai jamais ce podcast, mais voilà.
Mais bah, moi j'aimerais trop
candidats, hein.
Allez, moi j'aimerais trop, ce serait mon rêve de... Bah là, tu vois, rien que tu m'en parles, j'ai l'impression d'être addict.
Mais faites-en un live sur Twitch. Vraiment, ne serait-ce que ça. Vous faites 3 heures de live sur Twitch où vous débriefez Lost, en vrai.
Ah non, mais 3 heures pour le premier épisode.
Voilà, vous n'en savez rien. C'est ce que vous voulez.
C'est impossible.
En vrai, vous pouvez faire l'émission Twitch Lost, vous passez des extraits et tout, c'est chambé, tu vois.
Ce serait exceptionnel.
Ça serait incroyable.
Ouais,
et
ben
on y pensera.
Mais du coup, c'est pas mal parce que ça va pas mal enchaîner avec mon down. Ah, merci.
Moi, je crois que je vais changer mon up, du coup.
Ah ouais.
Ouais.
T'as fait un up sériel.
Ouais, c'était je recommence GOT, donc ce sera la semaine prochaine peut-être. Okay, non mais t'inquiète, j'ai d'autres trucs.
Ah ok. Ok. Bon, comme tu préfères.
Non mais vas-y.
Ouais, donc ça enchaîne pas mal avec mon down. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Loulou, pour ce super up qui m'a donné des envies de me remettre à ça, tu vois, j'aime trop Lost.
Mais oui, et c'est exactement ça. T'es comme ça, là, t'as les mâchoires serrées comme ça, et t'es en mode, mais l'épisode d'après, vas-y, mais l'épisode d'après, je veux savoir.
Et tu sais, tu dois vraiment t'empêcher. Il y a un moment où tu es trop fatigué, tu dois t'empêcher. Et encore, moi, je sais ce qui se passe, tu vois. Donc, quand je la revois, j'ai plus le même suspect.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Mais t'es quand même à fond, quoi.
Bref. Les gens qui avaient... Ouais, pardon.
Vas-y.
Les gens qui avaient écrit ça, ils n'ont pas fait d'autres trucs aussi addictifs depuis ?
Alors, il me semble qu'un des showrunners a fait The Leftovers, qui est
série
qui est encore plus zinzin que Lost, puisque vraiment, t'as l'impression que rien n'est expliqué. The Leftovers, le pitch, c'est il y a des gens qui ont disparu de la surface de la Terre, mais genre la moitié de la Terre.
5%.
Combien ?
5%.
5% de l'humanité a disparu On ne sait pas pourquoi ni comment.
Si, on sait comment. Ils sont volatilisés.
Ouais, est... une belle explication.
On sait pas pourquoi.
Non, mais ils n'ont pas disparu, genre, dans une expédition ou quoi que ce soit.
Ah oui, oui.
En fait, 5... un jour, ils se volatilisent.
Oui, c'est au hasard, 5% de la planète qui disparaît et qui se volatilise. Et du coup, c'est comment est-ce que les gens survivent à ça derrière quand, bah, je sais pas, t'as perdu un parent, t'as perdu un enfant, t'as perdu je sais pas qui. Et comment est-ce que tu trouves du sens à ce truc qui n'en a pas ? Et je me souviens avoir regardé, je pense, peut-être la première saison. Mais j'avoue que c'est chez Perrin. Hein.
C'est trop bien.
C'était trop bien.
Ouais. Mais j'avais kiffé, mais... Tu vois, genre là, quand les gens me disent la fin de Lost, ça n'a aucun sens, on comprend rien et tout, je suis en mode, franchement, j'ai regardé des séries comme The Leftovers où vraiment je comprenais rien, même avant la fin de la saison, donc c'est pas très grave. Je crois que le chemin est cool, en fait. C'est pas que la fin qui est importante.
Du coup, mon down, eh bien, c'est justement la grève des scénaristes. Alors, pas parce que je ne suis pas d'accord avec eux, je suis complètement d'accord avec eux pour les droits qu'ils défendent aux États-Unis, mais le fait est que du coup, il y a moins de trucs sympas qui sortent.
Ah oui.
Et ils sont toujours en grève, là ?
Non, ça y est, ils sont plus en grève.
Ah.
Mais bon, ça a quand même duré 5-6 mois, donc il va y avoir un petit retard de tout ce qu'on attend, et puis bah, de nouveaux formats et tout. Du coup, dès que j'ai un tout petit os à ronger, je le ronge, quoi. Donc, je me suis tapé l'intégralité de The Fall of the House of Usher, qui est de Mike Flanagan, qui est la nouvelle série après The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor.
Et Sermons de minuit. C'est la
et les Sermons de minuit. Donc, c'est la quatrième dans cette... Bon, c'est quand même...
Il en a signé 5 pour Netflix, c'est la quatrième, il lui reste plus qu'une.
Oh là là.
Oh là.
Je suis pas bien. Mais sachant que j'avais adoré The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, un peu moins Les Sermons de minuit, mais moi, ça allait. Je crois que t'as détesté, toi, Gale.
Mais moi, j'ai tellement aimé The Haunting. J'ai trouvé ça tellement splendide. Et j'avais aimé les bouquins avant, parce qu'ils s'inspirent toujours de bouquins qui ont existé, qui sont des vieux bouquins, souvent, de genre... et les Sermons de minuit, je crois que c'est une création originale qu'il a écrite, si je ne m'abuse, ce qui fait peut-être que c'était un peu moins inspiré et un peu plus artificiel, je trouve.
En tout cas, là, c'est une adaptation de l'œuvre du même nom d'Edgar Allan Poe. Et alors, moi, pareil, j'adore tellement Hill House et j'aime aussi beaucoup Bly Manor que ça n'est pas arrivé à la hauteur de ce que j'attendais, mais j'ai quand même été prise dedans et donc j'ai regardé ça, j'ai maté ça pendant deux nuits.
J'aime comme trop ça, quand tu fais ça.
C'est la même voix que quand elle veut emplâtrer Jean-Phi qui met du plat dans les yeux.
C'est des trucs un peu viscéraux, tu vois. Et j'ai regardé. Ensuite, je me suis retrouvée sans rien à se mettre sous la dent. Heureusement, je suis allée au ciné, j'ai vu un super film qui s'appelle Le règne animal. Pareil, j'étais picousée comme ça, j'étais là, je veux voir que des super films, je veux voir machin. Après, je suis rentrée chez moi, j'étais là, mais je ne sais plus quoi faire, il n'y a plus rien. J'ai regardé le documentaire sur Beckham, j'ai adoré, j'étais là, j'aime le foot, je crois. Enfin bon, ça a été. J'étais sur un up comme ça de série où, en fait, la grève des scénaristes a fait qu'elle allait forcément arriver à son terme. Et j'avais regardé aussi la saison 4 de Sex Education que j'ai trouvé super.
Trop bien.
Elle était vraiment géniale. Bref. Et là, je sentais que j'arrivais à la fin du truc, mais je me disais non, il faut que je continue. Ne retombe pas dans New Girl, ne retombe pas dans New Girl.
Et pourtant, c'est vraiment hilarant.
Et pourtant, c'est hilarant, mais en fait, je la connais par cœur, donc limite, ça me saoule de la regarder, mais bon, bref.
Eh ben, on regarde Lost.
Bah, peut-être. Et du coup, je vais sur Disney+, et là, je lance un documentaire sur l'Atlantide avec James Cameron.
Ouh.
Donc, je me dis, super.
Moi, j'adore les mystères.
J'adore les mystères aussi. J'adore ce côté autour de... Parce que pour l'Atlantide, pour rappel, c'est donc un mythe, enfin une fable écrite par Platon qui a été considérée comme une fable pendant vraiment des millénaires. Et puis jusqu'à ce que l'archéologie moderne fasse un petit peu des recherches dans les océans et tout, que la géologie de la Terre soit un peu mieux explorée. Et on s'est dit, peut-être que c'est une vraie ville. Donc l'Atlantide serait été la ville principale d'une civilisation, les Atlantes, qui auraient régné sur l'océan Atlantique et tout ce qu'il y a autour, où il y avait des terres fertiles, où tout se passait hyper bien. Et mais sauf qu'ils sont devenus un petit peu...
Fascistes.
Non. Oui, mais oui, enfin, ils voulaient envahir tout le monde et ils sont devenus un petit peu, j'ai le mot en anglais, gourmands. Ils sont devenus un petit peu gourmands et avares et machin. Et donc, c'est une fable en fait sur quand tu désires trop, eh bien, forcément, ça te retombe sur la gueule puisque la cité Atlantide a été engloutie par les eaux. Voilà.
Comment ils se font engloutir en fait? Il pleut beaucoup?
Non. Alors, bah justement, justement, en fait, c'est tout le truc. C'est que je crois que Platon parle. Je sais plus s'il parle de volcan ou pas, mais bon, bref. Toujours est-il que l'Atlantide, ça passionne notamment des gens qui sont des fous de mystères, de quêtes et tout. Et j'ai regardé ce documentaire sur Disney Plus avec James Cameron, qui apparaît vraiment deux fois, donc ils l'ont vraiment mis en caution. c'est super agaçant. En plus, il apparaît deux fois en visio, donc voilà.
Ah,
et c'est un gars qui s'appelle Simcha, qui décide de partir à la recherche de l'Atlantide. Et c'est super agaçant comment tout est de mauvaise foi, juste pour corroborer ce qu'il aimerait être vrai.
Mmh.
C'est tellement, tellement, tellement agaçant.
Et c'est ça souvent l'écueil quand t'as une théorie, c'est que en fait tout, tu prends tout quand
avec ce point de vue là-bas.
Ça s'appelle le biais de confirmation.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Et en plus, il va dans tous les sites. Donc, il fait pas mal ses recherches en Sardaigne, en Crète, en Grèce, là où potentiellement il y a des gens qui ont vu l'Atlantide. Voilà. Et en fait, il fait
j'aime
genre
trop, là
il
où
découvre...
potentiellement il y a des gens qui ont vu l'Atlantide qui est vraiment depuis combien de millénaires censé être englouti?
Bah en fait, Platon explique que c'était qu'elle a été engloutie il y a 9000 ans, donc c'était pendant l'âge de pierre, donc c'était pas trop possible qu'il y ait une civilisation. Mais encore, en fait, c'est ça le truc avec l'histoire, c'est que si nous on n'a pas de traces, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc et puis le fond des océans est quand même un truc super vaste à examiner,
super méconnu.
Super méconnu. Donc en fait, bon, voilà, il y a eu des civilisations, on a dit non, c'était pas possible, et en fait, c'était les Mayas, c'était vrais gens, tu vois.
Ouais.
les Mayas sont des vrais gens, ok.
Bah non, mais c'est vrai, tu vois, genre Christophe Colomb, il était là, j'ai découvert l'Amérique. Bah non, frère, il y avait des gens avant toi, tu vois. Enfin, bon, bref. Et donc potentiellement, on a dit que l'Atlantide, c'était peut-être le pont entre les Égyptiens et les Mayas, et qu'en gros, c'était une civilisation qui s'est, parce qu'on fait souvent des ponts un peu complotistes entre les pyramides des Égyptiens se retrouvent aussi en Amérique du Sud chez les Mayas, et donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas un truc paranormal, ou peut-être c'était juste qu'il y avait une civilisation au milieu et ça a été englouti, et des survivants ils se sont retrouvés, j'en sais pas, la dérive des continents, bref, il y a mille explications en fait, et ça nous remet aussi à notre place de, on sait pas trop ce qui s'est passé, même à notre échelle d'humain, ce qui est fou, tu vois, parce qu'on n'est pas si vieux que ça à l'échelle de la Terre. Enfin bref, moi c'est des trucs qui m'aident à relativiser, ça me fait bien plaisir. Mais et donc du coup, cette recherche là de l'Atlantide, c'est vraiment le type va sur des sites qui ont été découverts il y a 30 ans et tout, et il dit j'ai découvert ce temple, je suis là. Je dis mais tais-toi, il est super sûr de lui, tu vois.
Comment il s'appelle ce gars?
Simcha, je crois.
Ok.
Et il est super agaçant et il appelle James Cameron, il fait ouais, j'ai trouvé si ça, mais des trucs qui existaient déjà. et James Cameron lui dit,
je l'adore, je vais faire ça.
Mais c'est pas une preuve, mon gars. Vas-y, va chercher des vraies preuves et tout. Et donc à un moment, ils se mettent sur un bateau.
Donc James Cameron, c'est deux fois en visio pour dire c'est pas une preuve.
C'est vraiment ça. C'est vraiment le documentaire le plus naze que j'ai vu, tu vois.
Comment il s'appelle le docu?
Oh, je sais plus. L'Atlantide.
Avec James Cameron.
Avec James Cameron. Mais je me suis dit bon bah s'il y a James Cameron, il va venir sur le bateau. Et non, c'est James Cameron. On le voit sur le tournage d'Avatar. Il est là. Oh, j'aimerais trop être avec vous et tout, mais en fait, il est sur le tournage, tu vois. Donc c'est juste des gars sur des bateaux qui sont tous en train de s'entre-persuader de trucs un peu complotistes, tu vois.
Oh là là.
Et
incroyable.
Eh ouais, c'est vraiment du génie. Et donc à un moment, ils vont sur le bateau, et ils plongent avec des plongeurs bah, dont c'est le métier, et ils trouvent une pierre ronde, et ils sont là, c'est peut-être une encre. Et, et parce que... Parce qu'en fait, l'Atlantide, c'était, enfin, les Atlantes, c'était un peuple marin. Et donc, ils avaient des villes comme ça, organisées en rond. Et entre ces ronds, enfin, en forme circulaire. Et donc, il y avait des sortes de douves entre les fortifications.
Mais là, quand tu nous racontes ça, c'est
Platon.
C'est Platon, c'est l'histoire.
C'est la légende et tout. Mais il y a quand même un truc, moi, c'est pour ça que c'est un roller coaster. Il y a quand même un truc qui m'a attiré l'oreille en écoutant ce documentaire, c'est que il parle d'une civilisation qui s'appelle les Minoens. Et en fait, il parle vite fait des Minoens. Il fait, et peut-être que les Atlantes étaient en fait les Minoens qui sont beaucoup moins loin dans le temps pour Platon. Donc ça aurait pu être une légende parce que c'est aussi une civilisation qui a été engloutie, qui en fait, il y a eu l'explosion du volcan de Santorin. Qui est la plus grosse catastrophe naturelle jamais expérimentée par les humains. Donc ça a couvert de cendres l'intégralité du bassin méditerranéen. Et ça a déclenché des tsunamis avec des vagues qui allaient jusqu'à 30 mètres.
Wow. Wow.
Donc vraiment, ça a rasé cette civilisation, même si elle n'a pas disparu à ce moment-là. Elle a disparu que 200 ans plus tard, puisque eux, ils sont allés se réfugier un petit peu dans les montagnes. Parce que ils avaient l'habitude de séismes.
Mais eux, on sait qu'ils sont vrais.
Eux, c'est sûr, c'est vrai, parce qu'on les a découverts il n'y a pas très longtemps, il y a une centaine d'années, tu vois, en redécouvrant des palais et tout. Le gars, Simcha, dit « Ouais, peut-être que les Atlantes, c'est les Minoens. » Parce que pareil, c'était des gens sur l'eau et tout.
Quel scientifique
vous connaissez les gens sur l'eau.
Non, mais dont les villes et tout ont été submergées par l'eau. À cause d'une catastrophe naturelle.
Et ça, c'est quand exactement ça ?
Les Minoens, je suis très mauvaise avec les chiffres, hein, je vous ai dit, j'ai regardé au moins 7 documentaires, mais je n'ai pas les chiffres en tête. Il me semble que c'est moins 3000 avant Jésus-Christ.
Ah ouais, ça date.
Ouais, donc ça fait longtemps. Et c'était des gens super avancés en termes de toilettes, notamment. Il y avait un système d'évacuation des eaux qu'on n'a pas revu avant je ne sais pas combien de temps, tu vois. Ils étaient super artistes aussi. Donc c'est eux qui ont inventé, par exemple, la teinture violette pour les vêtements, et donc ils apportaient ça aux Égyptiens pour les pharaons, les reines, tout ça. C'était un peuple pacifique, et c'est la raison pour laquelle ça peut pas être les Atlantes, ça, selon Simcha, parce que les Atlantes étaient des guerriers. Donc vraiment, ils passent il dit Platon dit c'est des guerriers, les Minoens ils ont pas fait assez de morts, donc c'est pas eux.
Ouais.
Enfin, vraiment des déductions de merde. Et donc, c'est déduction de merde en déduction de
merde.
Est-ce
qu'il y a genre des historiens qui aident Simcha dans sa
quête ? Okay. Ouais, ouais, c'est ça le truc. Mais tu sais, c'est toujours les historiens où ils disent « Mais personne ne s'est jamais intéressé à ça. » Je fais « Eh, mais c'est bizarre, peut-être c'est parce que c'est pas intéressant, tu vois. » mais ouais, enfin bref. Mais après, je comprends qu'il y a des trucs de l'histoire qu'on ne sait pas encore et il n'y a pas tous les fonds aussi nécessaires à l'archéologie pour se développer de fou. Voilà. Et à un moment, en fait, ils vont sur un bateau et là, ils disent si c'est ici l'embouchure d'Atlantide, ça veut dire qu'il doit y avoir des ancres au fond de l'eau. Et donc là, ils plongent au fond de l'eau et ils font des ancres. Et ils en découvrent 6.
Ah ouais?
Ils en découvrent 6 et ils appellent James Cameron. Ils sont là, hey, on a découvert 6 ancres au milieu de nulle part. Tu penses pas que c'est l'Atlantide du coup? Et il fait, ouais, peut-être. Et voilà.
C'est la fin.
Mais c'est la fin du documentaire. C'est tellement déceptif. Bien sûr, ils découvrent rien.
Excellent scénario.
Non, mais enfin, nul. Mais toujours est-il que, moi, pour le coup, ça m'a orienté vraiment à me renseigner sur la civilisation minoenne. Pour laquelle je me suis prise vraiment de passion, qui était moitié un matriarcat en plus, où en fait le système de dieux, donc il y avait forcément plusieurs dieux, c'était principalement des déesses, et les femmes qui avaient le plus d'importance dans la société, c'était les prêtresses, et donc c'était souvent des femmes, et c'était un peuple d'artisans, ils kiffaient en Crète, ils faisaient du vin, ils faisaient de l'art, de l'artisanat,
et des kiffeurs, et des belles toilettes.
Et des belles toilettes.
J'adore que ce soit eux les premiers à faire des vraies belles toilettes. Tu vois. Bah ouais. Parce que nous, pendant longtemps, on achetait des peu de chambres par-dessus, depuis nos chambres de bonne.
Et ouais.
Donc.
Et ils avaient des habitations antisismiques. Enfin, vraiment, c'était vraiment des gens.
Vachement avancés.
Ouais, hyper avancés. Et donc, dont les habitations, etc., ont été englouties par ces tsunamis. Pendant 90 ans, quand même, il y a eu des répercussions après l'explosion du volcan. 90 ans de tsunami.
Non, mais c'est là que tu te rends compte que c'est terrible, parce que nous, on commence souvent à apprendre l'histoire vraiment à partir de Jésus-Christ. Et de fait, il y a tellement de civilisations dont on n'a même pas idée qu'elles aient un jour existé sur notre planète. Je sais pas, moi, je trouve ça flippant.
C'est flippant et en même temps.
Tous ces gens qui ont habité la Terre avant nous. Ouais.
En fait, c'est surtout que ces civilisations-là dont on parle. Enfin, moi, j'ai souvenir de l'Égypte quand on était genre au collège. Et. bah, t'es au collège, t'es en sixième, tu vois, genre, c'est pas là où tu vas te passionner pour l'Égypte antique, tu vois. Alors que c'est giga passionnant, ouais. Et que, genre, aujourd'hui, je pense que tu me mettrais devant mes cours. Bon, alors, c'était des cours de sixième, donc peut-être que j'aurais besoin d'un peu plus. Mais en attendant, tu vois, genre, il y a des trucs où, avec le recul, je me dis, aujourd'hui, ça me passionnerait. Alors qu'à l'époque, j'en avais rien à carre. Mmh. C'est vraiment d'une tristesse folle. Et typiquement, genre, sur l'Égypte, moi, je me souviens que, en tout cas, quand j'étais petite, pendant longtemps, j'ai voulu être archéologue juste parce que j'avais étudié l'Égypte en cours et j'étais en mode genre c'est fascinant. Mais quoi.
L'Égypte, tu sais que mon cousin Sarvèche est archéologue, je me permets de le dire. Voilà.
Ah bah bravo Sarvèche.
Mais oui, tout à fait.
Moi j'ai essayé d'être passionnée par l'Égypte quand j'étais petite parce que je voulais trop une passion et tout. J'admirais trop les gens qui avaient des passions, donc j'avais acheté chez mon marchand de journaux une cassette, hein, je pense, sur les mystères de l'Égypte. Mais en fait, on peut pas se fabriquer une passion de toute pièce.
Voilà, c'était mon petit down.
Un beau down.
Super,
bien, bravo.
Mais heureusement, Kalindi, ma vieille mère, va
écoutez,
nous.
Écoutez, je suis un peu embêtée parce que moi, au début, je voulais vous dire que j'avais recommencé Game of Thrones et que je suis tombée dans le vortex. Mais bon, je vous en parlerai une autre fois. Mais franchement, moi, je sais pas combien de fois ça fait que je recommence Game of Thrones. En général, tous les 1 an et demi, et à chaque fois, je commence en me disant. Franchement, je vais regarder le pilote et je vais être là, vas-y, je connais par cœur, j'en peux plus. Et à chaque fois, je suis là, ok, je ne vais plus faire que ça. Mais bon, on a déjà pas mal parlé de produits filmiques et sériels aujourd'hui. Donc, je vais plutôt vous dire que mon up en ce moment, c'est Jean Poulpe, mon petit, ma petite peluche poulpe. Parce qu'en fait, moi, j'ai jamais vraiment eu de doudou. Et quand j'étais petite, j'avais un sac plastique.
C'est comme
plastique. Oui. Quand j'étais gamine, j'ai eu comme doudou longtemps un sac plastique Leclerc. Et en
quoi
fait, ouais, j'avais horreur de tous les doudous.
La femme sans trousse.
J'avais horreur de tous les doudous et j'ai eu une fois un avion gonflable de chez Air France que j'adorais, avec lequel je dormais jusqu'au jour où je lui ai mis un coup de couteau. Et donc, bon, bah voilà, il y avait
plus de qu'est-ce que tu faisais. Mais et avec ton sac Leclerc, tu faisais quoi?
Bah, je dormais avec.
Ah ouais.
Et
dangereux. Ta mère avait pas peur.
Et c'est en fait c'est ma grand-mère un jour qui m'a. Je sais pas comment c'est arrivé, mais pendant des mois, quand je dormais chez mes grands-parents, parce que quand j'étais petite, mes parents partaient, bah ma mère partait en voyage tout le temps et mon père travaillait de nuit, et donc j'allais souvent passer mes nuits chez mes grands-parents. Et ma grand-mère, je sais que pendant des mois, quand je dormais chez elle, bah, je dormais avec un sac Leclerc. Bon, bref, au moins, ça coûtait pas très cher en doudou. Et donc, j'avais jamais vraiment eu de doudou, ni de peluche, ni rien. Si. Non, non. J'avais, dans mon ancien appartement, au 7 rue Édouard Vaillant à Levallois-Perret, on avait un petit duplex avec mes parents. Et en fait, moi, j'étais à l'étage et j'avais une petite chambre qui ressemblait à une cabane avec une moquette bleu turquoise, et en fait c'était sous les combles, donc c'était vraiment pentu, et en fait dans le coin en pente j'avais toutes les peluches que les gens m'avaient offert. Et en fait j'étais un peu zinzin à l'époque, j'étais très zinzin des animaux, et j'avais notamment créé une association avec mon amie Élise P
la mystérieuse
qui s'appelait Képando pour Kalindi Élise Panda Dauphin, qui était
Képando.
Et en fait, Képando, ça a été une obsession qui est née. Alors, ça va partir dans tous les sens.
Mais attends, Élise, du coup, elle est plus fan des pandas et toi des dauphins, c'est ça ?
Non, c'était pour panda ou panthère, je sais plus. Mais un des deux animaux. Et moi, c'était le dauphin, ça l'a toujours été. Bon, bref.
Et oui, reine des océans.
Reine des océans. Et en fait, cette passion pour les animaux, elle est née un jour horrible en CM2 avec Monsieur Tonnier qui nous avait montré Gorille dans la brume sur la vie de Diane Fosset.
Ah,
vous vous rappelez de Diane Fosset? Bon, voilà. Donc, Diane Fosset, qui était une femme qui s'occupait en Asie du Sud-Est et dans une partie de l'Afrique, je ne sais plus laquelle, de la protection des grands singes.
Et de
notamment...
Coco.
Pardon?
Et de Coco, non? C'est pas elle qui a appris à faire signer Coco?
Ah, c'est possible.
Le gorille qui signe?
Ah, c'est possible. Ah, je ne sais pas.
Je ne sais pas.
C'était pas dans le film, en tout cas, mais c'est possible. Et en fait, notamment, c'était une époque où on braconnait vachement les avant-bras de gorille. Enfin, bon, bref.
Ouais, pourquoi
ouais, je sais plus pourquoi. Je te dis, c'est en CM2.
Pour faire signer.
Et donc, tu voyais la vie de Diane Fosset, qui, elle, est morte assassinée par un braconnier, si je ne m'abuse.
Ah ouais?
Ouais, ouais. Et bon, bref, moi, je suis en CM2 et je découvre ça. Donc, sachant que ma vie entière, c'était les animaux, j'étais là, ok. Et depuis, avec Élise P, on s'est dit, bah, vas-y, faut qu'on crée une association pour la défense des animaux, donc Képando. Et donc, au début, ça a commencé comme un club de défense pour les animaux qui consistait à On était abonnés à WWF, les grands classeurs où on classait tous les animaux par région du monde, etc. Donc on a fait ça pendant longtemps pour se documenter. Ensuite, on prenait plein de gens dans l'école et on disait « Voulez-vous faire partie de Kepando ?» et tout. Donc on a été assez nombreux à pas glander grand-chose, en fait. Et après, ça s'est transformé en un club de défense contre les forces du mal où, en fait, on remplissait... Je sais pas si vous rappelez des pchites. Ouais, ça a switché. Vous rappelez des pchites de bonbons?
Oui.
Tu sais, hyper acides. Oui. Et en fait, on les vidait et on mettait de l'eau de javel pour pchiter dans les yeux des garçons au cas où ils nous feraient du mal. Non. On l'a jamais fait finalement.
What the fuck?
Ouais. Et on avait des pieux.
Vous avez inventé des pieux.
Oui.
Oh, la bombe lacrymo.
Exactement. Et on taillait des pieux. Ça, c'était avec ma copine Louisanne parce que on était fans de Buffy contre les vampires, quoi. Et donc, on taillait des pieux. Enfin, bref.
Ouais, non, mais c'est bon. C'est d'un côté, je me dis, ces enfants ne vont pas bien. Et de l'autre, je me dis, c'est bien, c'est des femmes qui prennent soin de leur.
Ah ouais, non, on a toujours su qu'on voulait se défendre, tu vois. Et donc, c'est devenu progressivement un club de défense contre les forces du mal et qui consistait surtout à attacher la sœur d'Élise et lui jeter des trucs à la tronche en disant, mais défends-toi, bon bref.
Oh mon dieu, pauvre.
Où j'allais avec ça?
Le poulpe, Jean Poulpe.
Ouais, hop. Donc c'était ma période animaux. Mais Kepando, on en parle encore régulièrement, tu vois. C'est un truc qui nous anime pas mal.
Il y a toujours des conseils de.
Il n'y a plus vraiment de conseils, mais alors les conseils d'administration, ils se tiennent, mais souvent très tard la nuit quand on a vu beaucoup, tu vois. On se dit, tu te rends compte, la terre, les animaux. Voilà, c'est à peu près tout. Et donc, à l'époque, les gens m'offraient pléthore de peluches d'animaux en tout genre, parce que c'était ma passion. Et déjà, ma chambre, elle était turquoise. Et il y avait, évidemment, j'ai jamais eu de poster de connard, de To Be Free, de merde, j'en sais rien.
Par contre, des dauphins.
Mais que des trucs de dauphins.
Ah oui, bien sûr.
Moi, et j'avais, forcément. Et j'avais même un petit hôtel à la gloire de mon chien qui est mort. Bon, bref, avec une photo, il y avait un petit Ganesh à côté en bougie que j'allumais. Et puis, des petites icônes de dauphins, machin. Mais ça, c'était avant ma période oiseaux. Après, j'ai eu des oiseaux. Et donc, mon père m'a offert picorette et sautillette. Et là, j'ai découvert la passion pour les bengalis becs de corail. Et puis là, j'ai commencé à acheter des apos à tout va, à Nature et Découverte. Bon, après, ça s'est transformé encore en une autre passion. Parce que moi, j'en ai eu vraiment plein. Mais c'était toute animalière. Et donc, j'avais des peluches que je mettais tout au fond, comme ça, de mon cornet de chambre. Et tous les soirs, je pensais... J'étais une enfant assez angoissée. Je me disais tout le temps.
Ah bon, parce que comme t'es une adulte pas du tout angoissée, je suis très étonnée.
Non, mais j'étais très consciente. Enfin, je sais pas, j'étais une enfant très. Je sais pas, très empathique des malheurs de tout le monde et de toute la terre entière.
Ce qui est pas du tout le cas aujourd'hui.
Ce qui n'a pas changé. Et en fait, ma mère, elle avait tout le temps des bombes uriage pour se mettre de l'eau sur la tronche là.
Ouais.
Putain, faut faire gaffe s'il y a pas de l'eau de javel dedans. Hein, quand même.
Exactement. Bon, tu te méfieras. Et donc le soir, je descendais de ma chambre en cachette parce que c'était l'eau uriage de ma mère, ça coûtait cher, tu vois. Oui. Donc j'allais prendre les bombes uriage, je me mettais dans ma chambre et je disais. Pour tous les animaux de la terre qui n'ont pas à boire et qui meurent de chaud dans les pays où il fait trop chaud et où les animaux, ils n'ont pas à boire. Parce qu'en fait, nous, quand on allait à Maurice avec mon père, à Maurice, il y a beaucoup, beaucoup de chiens et de chats errants. Et mon père avait peu de pitié pour les humains, mais beaucoup de pitié pour les animaux. Et en fait, on passait notre vie à avoir des bouteilles d'eau et des croquettes. Et dès qu'on voyait un chien errant, on lui donnait au moins un bol d'eau. Et mon père m'avait toujours dit, si je gagne au loto, le premier truc que je fais, c'est faire construire des abreuvoirs pour tous les animaux errants de l'île Maurice. Et donc moi j'avais gardé dans ma tête que y a des animaux qui crèvent de soif et c'est horrible et tu les vois mourir devant toi et tout. Et donc je disais voilà à tous les animaux qui ont soif et je pchitais sur toutes mes peluches pour qu'elles représentent, tu vois, tous les animaux en train de mourir de soif du monde. Et je faisais ça genre 3 ou 4 fois, puis après j'allais me coucher, je me disais c'est bon, j'ai bien donné à boire à tous les animaux. Bref, c'est ma seule expérience avec les peluches. Et sinon j'ai jamais
une expérience pas du tout angoissante, quoi.
Et après j'en ai plus jamais eu, enfin j'ai jamais eu d'affection particulière pour une peluche ou un doudou. Et il y a quelques années avec mon ex Naël, je sais plus dans quelle boutique on se promène et je vois une peluche en forme de poulpe qui me semble marrante et tout, puis on a toujours eu avec Naël une passion pour les poulpes et donc il me dit bah vas-y je t'offre ce petit poulpe et donc on l'appelle Jean Poulpe et on a dormi avec, mais pas vraiment pour dormir avec, c'est parce qu'il fallait le mettre quelque part donc on le mettait dans notre lit. Et en fait quand on s'est séparé avec Naël, j'ai gardé Jean Poulpe et en ce moment je dors avec Jean Poulpe et j'avoue il m'apporte un peu de réconfort
et de fou.
Et je crois que genre 31 ans, je découvre le fait d'avoir un tout.
Je t'adore.
Moi, je comprends de ouf. Moi, ça m'est arrivé. C'était pendant le confinement. Et depuis, ça m'est jamais reparti pareil. J'ai jamais trop eu de doudou. Ouais, j'ai deux doudous même.
Bon, j'ai un doudou, c'est un petit ours, il y a marqué Alix dessus, c'était ma famille d'accueil au Canada qui m'avait fait ça. Et je m'en étais jamais servi comme doudou, mais maintenant, il faut qu'il ait une position spéciale contre moi pour que je puisse dormir. Et là, quand je suis rentrée chez mes parents, j'ai redécouvert une autre peluche, qui est une peluche bouillotte, tu sais, que tu mets au micro-ondes.
Oui, j'adore ça.
Tu sais, elles sont très lourdes et c'est un petit pug. Donc, il y a une petite tête tout écrasée comme ça. Et en fait, il est très lourd. Et ça, j'adore le mettre sur ma poitrine pour dormir avec.
Ah oui,
donc,
mais
maintenant,
ça,
j'ai deux doudous anxiété. Et j'ai 28 ans.
Bah ouais, non, mais je comprends, tu vois. Et là, franchement, ce matin, Amaury me disait « Tu peux éviter de mettre Jean Poulpe dans ma tête, s'il te plaît, quand tu dors ?» et ouais, franchement, je découvre le réconfort de dormir avec un objet dans lequel tu mets ce que tu veux, en fait. Et moi, je mets mes trucs de petite fille dedans, tu vois, un peu angoissée. Et en ce moment, bah, ça me sert plutôt bien, quoi. Donc voilà, c'est ça mon up, c'est mon petit Jean Poulpe. Et deuxième petit up, c'est que j'ai découvert, j'en parlais à ma femme tout à l'heure, la bière sans alcool, aucun rapport.
Mais le fameux saut à l'élastique.
Mais franchement, je suis trop contente, j'arrête pas d'acheter de la Paulaner. Et oui, il y a de la Paulaner sans alcool. Mais ça n'a pas l'air de vous choquer.
Bah, je sais pas ce que c'est en fait à la base. Donc.
La Paulaner, c'est la bière allemande. C'est la bière de brasserie allemande de l'Oktoberfest. C'est la bière allemande qu'on consomme partout dans le monde.
L'Oktoberfest.
Bah oui, elle le fait avec l'accent. Bien sûr. Dunkerque.
C'est la bière qu'on consomme. Voilà, c'est vraiment la bonne bière allemande avec la Franziskaner. Et donc, elles existent toutes les deux. Et alors, l'autre jour, je vais au bar à saucisses avec mon mec.
Et Alfamoso
au bar à saucisses. Mais vous vous rappelez pas, on avait fait. Vous rappelez pas.
Ah oui, c'est
on a fait mon anniversaire il y a deux ans au bar à saucisses. Et donc, on peut commander des plateaux de saucisses, le Weltmeisterplatte. T'as vraiment des saucisses de toutes sortes, fourrées au fromage, fourrées à l'ail, aux quatre épices. Enfin, bon, bref.
J'adore quand tu parles allemand, je trouve ça joli.
Ah, merci beaucoup. Et j'adore, voilà. Donc, l'autre jour, on est au bar à saucisses avec mon mec. Et je lui dis, tu veux pas, on se boit une bière sans alcool? Et elle me dit, grave, parce qu'on a qui boit très peu d'alcool, ce qui est vraiment une des raisons pour lesquelles je pourrais le quitter un jour. Et donc, on commence à se boire des grosses binges sans alcool et on est là, putain, il est pas fun notre jeudi soir. Bref. Et donc, on en a acheté pour la maison. Et franchement, pour les gens, c'est vraiment sérieux. En vrai, pour les gens qui ont du mal à se passer de l'alcool au quotidien, comme c'est mon cas, moi, pendant très longtemps, j'ai vraiment associé le fait d'arrêter une journée de travail par ouvrir une bière et la boire. Sauf qu'en fait, c'est très difficile quand on prend goût à l'alcool. Et moi, à l'alcool, j'en ai bu depuis très jeune. Parce que quand j'étais petite, mon père me faisait goûter tous les alcools et surtout ses bières. Et pour mon père, c'était très important la bonne bière. On rigolait vraiment pas avec ça, surtout la bière glacée. Et donc, il me faisait goûter toutes ses bières préf et tout. Et j'ai toujours aimé la bière. Vraiment, j'ai grandi en disant putain quand j'aurai 18
ans. Le houblon, ça des watts.
Ouais, c'est trop bien. Et je me disais quand j'aurai 18 ans, je vais m'acheter des packs de bière et le soir quand je rentrerai, je décapsulerai et je la boirai devant la télé et je me dirai c'est ça être adulte. Et pour moi, être adulte,
alcoolique.
C'est ça, c'est... Ouais, c'est ça être alcoolique. Et mon père avait des soucis d'alcool, ce qui aurait pu me mettre sur le chemin du truc. Et en fait, et voilà. Et donc, moi, c'est vrai que boire ma bière ou mon verre de vin le soir, c'est vraiment un moment plaisir. Mais ce que j'ai du mal à faire, c'est arrêter après une certaine quantité. Et donc, c'est très facile de boire beaucoup tout le temps. Et donc là, j'essaye, sur le chemin de la guérison vers peut-être boire moins d'alcool, de trouver des substituts. Et en effet, la bière sans alcool, qui est vraiment dans les mêmes bouteilles de Leff, de Heineken, de Paulaner, etc. C'est vraiment les mêmes bouteilles.
Mais
et ça fait le trick,
que...
tu vois.
À tel point que l'autre jour, j'en ai acheté sans faire gaffe, tu vois.
Et bah voilà. Tu vois même pas qu'il y a écrit 0,0.
Bah non. J'ai pas vu, tu vois. Et on a bu de la bière sans alcool.
Et tu vois, bon alors... C'est pas tout à fait pareil, ça a plus le goût de panaché, tu vois que voilà. Mais ne serait-ce que de boire dans la même bouteille, le geste,
oui,
le...
ça trique ton cerveau.
Et c'est super. Donc ça, c'est vraiment mon petit deuxième petit up que je voulais caler parce que c'est vraiment chambé. N'hésitez pas à remplacer votre bière par de la bière sans alcool, sauf si vous voulez boire de l'alcool, vous faites ce que vous voulez. C'est autorisé par la loi a priori.
Voilà, bah c'est vrai. Merci beaucoup pour je vous en prie. Up doudou alcool,
doudou sans alcool,
doudou sans alcool. Santé mentale,
moi,
finalement.
Ouais, c'est ça. Exactement.
Moi, j'avais juste un tout petit down avant qu'on se quitte. Alors, je sais que c'est pas... mais c'est que j'ai oublié de le dire.
Non, c'est pas la procédure.
Bah ouais, je sais que c'est pas du tout la procédure. Mais en fait, je voulais en parler. Genre, tout à l'heure, je monte dans l'ascenseur et il y avait quelqu'un qui avait teps.
Ah. Oh non.
Aïe, aïe.
Dans l'ascenseur, c'est vraiment... Ça se fait pas.
Ça se fait pas.
En fait, le fait... Enfin, c'est vraiment pas sympa parce qu'en plus, moi, je monte, ça pue dans mon nez, tu vois. Je suis enfermée dans l'ascenseur. Et après, je sors et les gens qui rentrent vont penser que c'est moi qui ai teps.
Horrible.
Mais il y a vraiment des problèmes ici avec la gestion de l'hygiène anale. Ouais. qui ne tire pas la chasse, qui teps dans l'ascenseur.
Ouais, c'est ça.
Moi, hier, j'ai pété dans le taxi.
Ah ouais. Et comment tu l'as vécu?
Et il a fallu que je dise, excusez-moi, on peut ouvrir la fenêtre parce que je me sens pas très bien. Et j'étais... Mais c'est vrai, en plus, j'avais un peu la gerbe. Et puis voilà, et je pense, c'est horrible quand t'es dans un taxi et que ça t'arrive. Vous êtes que deux personnes, il sait que c'est pas lui, il sait donc que c'est toi. Ouais. Le moment est long.
Le moment est long. Enfin voilà, c'était juste un petit avertissement de fin. Ne teps pas dans un ascenseur.
Don't teps in an elevator.
Voilà.
belle prévention de faim, Alex.
Pas de soucis, je suis là pour ça.
Un message essentiel.
Merci à vous trois d'avoir participé à cet excellent podcast.
Merci à toi de l'avoir amené.
Et merci surtout à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici.
Oui, vous êtes super.
Merci, Box.
Et surtout, ne partez pas trop vite, car nous allons faire le cinquième quart d'heure. Donc, si vous n'avez pas encore accès au cinquième quart d'heure, mais rien de plus simple, cliquez sur le lien dans la description du podcast. Abonnez-vous. C'est le prix d'une pinte par mois. C'est 8,40€. Et ouais, on est à Paris, nous.
et comme ça, quand on aura tout déménagé.
Oui, c'est ça. Et chaque semaine, vous allez pouvoir écouter un quart d'heure de plus.
Exclusif,
c'est-à-dire qu'il ne sortira jamais d'entre les oreilles des cinquièmes cardos. Et ça, c'est l'occasion pour nous de partager souvent des choses très honteuses.
Oui.
Très honteuses. Même. Merci à tous. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. Voilà. Et on se retrouve dans
4 quarts d'heure. Adieu.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.